Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre. Ce soir, les banquiers peuvent-ils sauver la banquise ? L'urgence climatique n'est plus à démontrer. Elle suppose un changement dans les comportements et plus profondément dans les modes de vie. La sobriété énergétique en est un des principaux axes. Mais la bonne volonté ne suffit pas. Comme ailleurs, l'argent est le nerf de la guerre. Rendre les logements moins énergivores, les transports moins polluants, favoriser la transition vers les énergies renouvelables demande de gigantesques investissements. C'est dans cet esprit qu'a été lancé la semaine dernière le Pacte Finance Climat, une initiative soutenue par des personnalités politiques et des membres de la société civile, avec pour double objectif la création d'une banque européenne du climat et d'un budget européen dédié à la transition écologique pour un montant de total de 300 milliards d'euros par an. Alors ce projet part d'un constat simple. Beaucoup d'argent circule dans le monde, mais il n'est que trop rarement orienté vers les projets susceptibles de participer à la lutte contre le réchauffement climatique. Des engagements avaient pourtant été pris au moment de la COP21, y compris par le secteur de la finance, mais des intentions aux pratiques, il y a toujours un cap difficile à franchir, même si de nombreux projets ont vu le jour ces dernières années. Alors les banquiers peuvent-ils sauver la banquise ? C'est la discussion du soir en compagnie de trois invités. Philippe Zawati, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le directeur général de Mirova, qui est une société de gestion d'actifs spécialisée dans le financement du développement durable. C'est une filiale du groupe Natixis. Vous êtes le co-auteur avec Pascal Canfin du rapport pour la création de France Transition, qui a été remis au gouvernement en décembre dernier. France Transition, c'est un outil pour mobiliser des capitaux privés dans la transition écologique. On aura évidemment l'occasion d'y revenir. Oui. Et je citerai votre dernier ouvrage aux éditions de L'Échiquier. La finance verte commence à Paris. Vous l'avez publié l'an dernier. Pour discuter avec vous, Jésabelle Coupé-Soubéran, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes économiste, spécialiste des banques et de la régulation financière, entre autres. Vous dirigez le master contrôle des risques bancaires à Paris 1, Panthéon-Sorbonne, c'est l'université. Et je renvoie là aussi à votre dernier livre, à la documentation française, Parlons banque en 30 questions, que vous avez co-signé avec Christophe Nijdam. Et puis notre troisième invité, il est en duplex des studios de France Bleu à Rouen. Il s'agit de Pierre Larouturou. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes économiste, fondateur du mouvement Nouvelle Donne, par ailleurs ingénieur agronome, et vous êtes à l'initiative de ce pacte finance-climat présenté la semaine dernière, qu'on peut découvrir dans un livre que vous co-signez avec Jean Jouzel et Anne Essel, Finance-climat, réveillez-vous. C'est un livre qui est publié aux éditions Indigène. Alors pour commencer la discussion, sachant qu'on a énormément de thèmes à aborder ce soir, mais j'aimerais faire un premier tour de table avec cette question. Est-ce que vous diriez les uns et les autres que la finance, alors de quoi s'agit-il quand on parle de finance ? Ça va être peut-être un des éléments de la réponse, mais est-ce que la finance a une responsabilité historique dans le réchauffement climatique et du coup une responsabilité particulière aujourd'hui dans la lutte contre le réchauffement ? Philippe Zawati.
La finance a une responsabilité comme tout le monde. C'est-à-dire que on est de façon générale dans une problématique de société, hein, de problématique existentielle, on va dire. Et donc la finance ne sauvera pas plus la banquise que l'État le sauvera ou que la COP 21 l'a sauvé. Pour réussir à sauver le climat, on a besoin d'un changement radical de nos modes de vie, un changement radical de nos modes de production, de consommation. Mais aussi sans doute un changement radical de la façon dont les humains interagissent avec la nature, et voire même, je dirais, peut-être même aussi important, de la façon dont les humains interagissent entre eux. C'est tout ça. Et la finance est évidemment un des éléments de ce contexte.
Donc une responsabilité, oui, mais pas davantage, en tout cas, que le reste, voilà, que les autres responsabilités, disons. Hein.
Pas davantage, mais forte, parce que à la hauteur du poids de la finance dans l'ensemble de la vie et de l'économie.
Jésabelle Coupé-Soubéran.
Moi, il me semble que la responsabilité est grande. J'insisterai un petit peu sur ce point-là. C'est-à-dire que, si vous voulez, ça marche un peu dans les deux sens. La finance, alors par finance, entendons les banques, les marchés financiers, ont à se soucier du climat. Parce que le dérèglement climatique pour le secteur bancaire et financier, c'est un risque. Ce sont même plusieurs risques. Hein, ce sont des risques importants. Ce sont d'abord des risques physiques, des risques de dommages très importants, évidemment, pour les assureurs, mais pas que pour eux, parce que ça signifie aussi potentiellement des destructions de valeurs d'actifs importantes. Ce sont d'autres types de risques qui ont été très bien catégorisés dans un discours qu'avait prononcé Mark Carney, hein, l'actuel gouverneur de la Banque d'Angleterre, où il soulignait le danger finalement pour le secteur financier que représentait le changement climatique. Donc, ça doit être nécessairement un souci majeur pour le secteur financier. Et puis, ça marche dans l'autre sens aussi, parce que pour financer la transition écologique, pour s'attaquer à ce problème de dérèglement climatique, eh bien, bien sûr qu'il faut financer cette transition. Donc, ça veut dire que tous ces flux financiers qui sont débordants et mal orientés, il faut les réorienter vers la transition écologique.
Pierre Larrot-Turoux, quelle est votre réponse à cette question ?
Vous l'avez dit tout à l'heure, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Et est-ce qu'on a enfin décidé de déclarer la guerre au dérèglement climatique ? Est-ce qu'on arrête les rustines ? Est-ce qu'on arrête les beaux discours qui sont suivis de peu d'effets ? Vous venez d'entendre la météo à la fin du journal, 24 degrés demain. On annonce 24 degrés alors qu'on est au mois de février. Donc si on continue comme ça à avoir des petites mesures, ça va dans le bon sens, mais on va perdre la guerre. Donc oui, il faut déclarer la guerre, il faut isoler tous les bâtiments, publics et privés, il faut développer des transports en commun massifs, il faut aider l'agriculture à se transformer. Ça peut être une très bonne nouvelle, il n'est pas trop tard pour le faire, il est encore possible de gagner cette bataille. On peut créer jusqu'à 800 000 ou 900 000 emplois rien qu'en France si on prend le taureau par les cornes, c'est l'ADEME qui dit ça. Et d'un pays où il y a plus de 4 millions de chômeurs, ça fait du bien de savoir qu'on peut créer 800 000 emplois. Et il faut financer. Et là où je suis d'accord avec Philippe Sarwati, c'est qu'il n'y a pas de baguette magique, il n'y a pas une seule solution. Mais Jezabel l'a dit, il faut réorienter les financements qui existent déjà. Quand la Banque Centrale Européenne crée 2600 milliards en 3 ans, je répète, la BCE a créé 2600 milliards en 3 ans, on a du mal à croire qu'on ne peut pas trouver des financements pour isoler des bâtiments ou développer des transports en commun. Donc il faut utiliser autrement, de façon réorientée vers le bien commun, vers les créations d'emplois, vers le climat et vers la biodiversité, de l'argent qui aujourd'hui va un peu n'importe où et parfois à la spéculation.
Alors ça, c'est effectivement un point très important qui est celui de savoir si cet argent, si cette finance, elle existe aujourd'hui, elle est disponible ou en tout cas elle peut être rendue disponible pour financer la transition écologique, la transition énergétique. Philippe Sarwati, est-ce qu'on peut dire que l'argent, il faut le créer d'une certaine manière, de la même manière que l'a fait la BCE pour sauver la croissance depuis à partir de 2014 avec sa politique qu'on a qualifiée de quantitative easing et puis de taux d'intérêt négatif. Est-ce que c'est finalement quelque chose donc qu'il faudrait faire de la même manière, ou bien est-ce qu'il suffirait simplement de réorienter l'argent qui est disponible aujourd'hui sur les marchés ?
Je crois qu'on a besoin essentiellement d'une réorientation. Je suis d'accord avec un des points de ce que vient de dire Pierre Larrot-Turoux, c'est que il faut éviter de chercher la recette miracle. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans la même problématique que j'entends souvent, on a sauvé les banques en mettant 1000 milliards et donc on peut sauver le climat en mettant 1000 milliards. On n'est pas dans la même problématique.
Ça paraît assez logique pourtant.
Ça paraît assez logique, sauf que pour sauver les banques, vous pouvez entre minuit et 2h du matin réunir 3 ministres, 2 patrons de banque centrale et 2 patrons de banque et décider par des jeux d'écriture, on va dire simplement, de sauver les établissements financiers. Vous ne pourrez pas faire ça avec le climat de la même façon. Ça ne peut pas se décréter de la même façon. On a besoin, comme j'ai dit d'avant, d'une mobilisation de l'ensemble de la société et notamment de la finance publique, mais aussi de la finance privée. Donc là aussi, vraiment, il faut qu'on ait bien ça en tête. Après, on a effectivement besoin d'une réallocation massive du capital et de la finance. C'était une des avancées majeures d'ailleurs de la COP21, dès l'article 2 hein, de l'accord de Paris, hein, si vous vous souvenez, il est dit il faut une redistribution des flux de capital. C'était une vraie avancée. Aujourd'hui, cette réallocation des flux de capitaux, elle ne se produit pas suffisamment, ou elle se produit de façon extrêmement lente. Donc on a besoin d'aller beaucoup plus loin là-dedans. Et ça se fera principalement avec différents outils, avec de la mobilisation des épargnants, avec aussi un rôle de l'argent public pour mobiliser beaucoup plus l'argent privé. C'est notamment ce qu'on a développé dans notre rapport avec Pascal Canfin.
Voilà, on va évidemment discuter de ces différents outils. Jezabel Coupé-Soulière, pour rester encore un petit peu sur les généralités, disons, qui n'en sont pas tout à fait d'ailleurs. Est-ce que on peut dire qu'aujourd'hui il y a beaucoup de liquidités qui circulent et que ces liquidités, elles n'ont pas été utilisées alors peut-être pas suffisamment, par exemple, pour ce qui était l'objectif premier de la Banque Centrale Européenne, c'est-à-dire à savoir relancer la croissance économique, relancer l'économie réelle et a fortiori pour financer cette transition écologique.
Alors, les liquidités, elles existent. Et elles existent au bilan des banques, au bilan des banques commerciales, au bilan des banques d'investissement. Les actifs bancaires, c'est dans le monde, c'est 138 000 milliards de dollars. D'accord ? Les actifs gérés par les banques en zone euro, c'est 31 000 milliards de dollars. Aux États-Unis, c'est 22 000 milliards de dollars. Il y a, si vous voulez, au bilan des banques, il y a énormément d'actifs gérés. Donc il y a énormément, en ce sens, de liquidité. Le terme n'est pas forcément le bon, parce que ces actifs, ils sont plus ou moins liquides, mais ce dont on a besoin, c'est véritablement, en fait, d'une réorientation des ressources des banques, des investissements des banques. Et je rejoins ce qui a été dit. C'est vrai que c'est un peu trop facile, si vous voulez, quand on entend, cette idée que, il suffirait d'utiliser l'argent qui a été injecté par la Banque Centrale Européenne, par exemple, ou par la Fed, l'injecter au bon endroit pour sauver le climat. Pourquoi c'est trop facile ? Tout simplement parce que ces montants-là correspondent à ce que l'on appelle de la monnaie centrale. C'est pas de la monnaie qui est inscrite sur votre compte bancaire ou sur le mien. C'est pas de la monnaie qu'on a dans nos poches. C'est de la monnaie qui circule sur le marché entre les banques, d'accord, sur le marché interbancaire. Alors ça veut pas dire que les banques centrales n'aient pas un rôle à jouer. Elles ont un rôle à jouer, mais ce qu'il faudrait faire, par exemple, si vous voulez, c'est que les banques centrales conditionnent le refinancement des banques qui se fait auprès d'elles, qu'elles conditionnent cela à des investissements verts. Après, évidemment, ça pose la question de savoir qu'est-ce qu'un investissement vert.
Et ça, elles ne le font pas aujourd'hui. Elles ne le font pas parce qu'elles n'ont pas envie de le faire ou elles ne le font pas parce qu'elles n'ont pas la possibilité de le faire.
Alors, pour l'instant, l'engagement n'est pas pris, la volonté n'est pas prise, on ne dispose pas encore, si vous voulez, d'une taxonomie permettant de distinguer ce qu'est un actif vert, ce qui ne l'est pas. On n'a pas encore, alors ça c'est une des propositions du pacte finance-climat de Pierre Larouteau, mais on n'a pas encore une banque du climat. Mais imaginons que cela se mette en place. Eh bien, par exemple, la Banque Centrale Européenne pourrait tout à fait garantir les émissions de la Banque européenne du climat. La Banque européenne du climat émettrait, par exemple, des obligations vertes sur le marché, et ces obligations seraient garanties par la BCE ou bien pourraient être achetées par la BCE. Ça fonctionnerait.
Alors justement, Pierre Larouteau, c'est le bon moment pour nous expliquer ce qu'est ce projet de Banque européenne du climat. Comment est-ce que ça fonctionnerait ? Et est-ce que l'idée, ce serait que cette banque récupère finalement une partie de cet argent massif qui circule dans le monde, notamment entre les banques, pour le réorienter vers des investissements qui seraient plus verts ?
Oui, tout à fait. Mais le problème n'est pas technique. Quand le mur de Berlin est tombé, il a suffi de 6 mois à Helmut Kohl et François Mitterrand pour se dire qu'il fallait un outil pour financer la transition. À l'époque, c'était pas la transition écologique, c'était la Pologne, la Tchécoslovaquie, la Hongrie qui avaient besoin d'un financement. Et en partant de rien, en 6 mois, on a créé une banque, la Bird, qui pendant 30 ans a financé cette transition. Donc tout ce que viennent de dire et Philippe et Jezabel est juste techniquement. Il y a des liquidités disponibles, il y a effectivement deux circuits. Le circuit banque centrale n'est pas le même que le circuit de monsieur et madame tout le monde. Mais ça, encore une fois, on a des gens de la BUI qui nous aident. On ne touche pas à la BCE. Et ce qu'on propose avec Jean Jouzel, avec Anne Hessel, avec des milliers de citoyens, c'est dire, dans un an, on crée une banque du climat, c'est faisable. On a été reçu dans plein d'endroits importants, à Bruxelles, à Paris, à Berlin, et tout le monde nous dit, s'il y a une volonté politique, on peut créer une banque du climat qui aura pour on ne touche pas à la BCE symboliquement, on ne touche même pas à la BUI, on fait une banque du climat qui est filiale de la Banque européenne d'investissement, et elle aura pour obligation de fournir à chacun de nos pays une enveloppe pour isoler les bâtiments publics et privés, pour faire des transports en commun, pour financer les énergies renouvelables. Et chaque pays saura que pendant 30 ans, c'est très important, la stabilité pour qu'on puisse se lancer, qu'on puisse former des gens, pour qu'on puisse créer des dynamiques. Un traité européen dira, chaque pays sait que pendant 30 ans, il a une enveloppe de 2% du PIB, des prêts à taux zéro qui sont donnés par cette Banque du Climat.
Vous avez peut-être vu, Pierre Larouteau, la réaction d'Ambroise Fayolle, qui est vice-président de la Banque européenne européenne d'investissement, donc la BEI, réaction dans les échos, il dit cette Banque européenne du climat, elle existe déjà, c'est justement la BEI, elle consacre aujourd'hui au moins 25% de la totalité de ses investissements à la lutte contre le changement climatique, il n'y a pas de raison que ce pourcentage n'augmente pas dans les années à venir. Pourquoi créer une banque in extenso alors que finalement il y a la structure qui existe peut-être déjà?
En fait, c'est très intéressant parce que depuis, nous nous sommes rencontrés avec M. Fayol et il a fait un compte-rendu en expliquant que notre projet était très intéressant et le Monde de mercredi dernier l'a cité en disant que pour le moment, ce n'est pas à l'ordre du jour. La question est de savoir, est-ce que les chefs d'État, est-ce que Mme Merkel, M. Macron, M. Rutte, M. Sanchez demandent à la BEI de faire cette filiale? Mais il se trouve que dans son premier article, il disait la BEI fait déjà du travail, et c'est vrai, mais c'est seulement 25% de l'activité de la BEI. Par ailleurs, la Banque européenne d'investissement continue à financer des trucs qui sont beaucoup, beaucoup moins verts, des financements dans le pétrole, dans le charbon qu'il faudrait stopper. Et puis, de toute façon, il le disait lui-même, on n'est pas du tout à la hauteur. C'est très sympa notre discussion depuis 20 minutes, mais on a tous conscience, on sait tous les quatre qu'on n'est pas à la hauteur. La Cour des comptes européenne dit qu'elle en a marre des scénarios où tout finit bien en 2050, parce que tout d'un coup, en 2040, on met les bons budgets. Et que tout d'un coup, en 2044, il y a l'invention technologique qui permet de sauver la planète. Donc, la Cour des comptes européenne, c'est pas des rigolos, c'est pas, la Cour des comptes dit que c'est dès le prochain budget en 2021 qu'il faut trouver 1100 milliards chaque année. 1100 milliards d'euros chaque année si on veut sauver le climat. Et c'est là qu'il faut une mixité des financements, que ce que proposent Philippe Zerouati et Pascal Canfin est très intéressant, que le pacte finance climat ne prétend pas régler tout seul. Il faut en même temps agir sur les comportements, agir, parler à l'intelligence des gens, changer la loi, dire par la loi que tous les bâtiments doivent être isolés dans 20 ans. Mais quand la Cour des comptes européenne nous dit qu'il faut, pour gagner la bataille et pour créer de l'ordre de 5 ou 6 millions d'emplois en Europe, qu'il faut 1100 milliards, il faut absolument changer de braquet. Et donc, un des deux outils qu'on propose, c'est de créer cette banque du climat. Et je le répète, quand le mur de Berlin est tombé, ça s'est fait en 6 mois. Donc, si on le veut, si les chefs d'État le décident, on peut l'avoir dans un an et ça changerait beaucoup de choses. Quand Nicolas Hulot a démissionné, il a dit « j'espérais 7 milliards pour isoler les bâtiments en commençant par les plus précaires. On m'a dit qu'il n'y avait pas d'argent. » Eh bien, oui, isoler les bâtiments...
On voit que les sommes justement qui sont demandées aujourd'hui sont très, très largement supérieur évidemment à ces 7 milliards. J'aimerais savoir ce que pense Philippe Zerouati et de cette proposition de création d'une banque européenne du climat. Est-ce que ça fait partie des outils qui vous semblent intéressants à mobiliser? Et on ira ensuite sur cette proposition, sur ce rapport que vous avez signé avec Pascal Canfin pour France Transition. Vous nous expliquerez de quoi il s'agit.
Oui.
Sur la banque d'abord.
Sur la banque, on cherche tous des éléments symboliques. Hein. Je pense que la création d'une banque du climat, de ce que je comprends de ce que dit Pierre Leroux, c'est un élément symbolique. C'est montrer qu'il faut que l'argent public aille principalement, voire exclusivement, vers des solutions qui sont favorables au climat. Après, est-ce que ça peut être la BEI? Moi, je suis plutôt favorable à essayer de faire évoluer les institutions existantes plutôt que de superposer des institutions à d'autres. Voilà. Mais de façon générale, oui, on a besoin d'investissements publics vers la transition.
Après, excusez-moi de vous couper, ça n'est pas symbolique. Aujourd'hui, encore une fois, Nicolas Hulot démissionne parce qu'il espérait 7 milliards pour isoler les bâtiments en commençant par les plus précaires. Ça aurait créé des emplois. Les familles qui vivent dans des HLM vivraient mieux, elles paieraient moins de factures. Aujourd'hui, c'est pas symbolique, il n'a pas cet argent. Donc ça changerait tout si la France avait 45 milliards, si la France
avait 45 milliards. Voilà,
j'ai pas dit
que les 1000 milliards ou les 45 milliards étaient symboliques. J'ai dit simplement que le fait de créer une banque qui s'appelle la Banque du Climat avait cette connotation, cette force symbolique potentiellement. Et je comprends cela. C'est un peu la même idée quand nous on dit on veut créer France Transition. C'est pas forcément une institution nouvelle, mais il y a bien une marque, un renouveau, un signal pour montrer que l'argent public doit être orienté vers la résolution du problème du changement climatique.
Après, France Transition justement, qu'est-ce que c'est?
Après, c'est la différence, moi je pense, un peu fondamentale entre ces différentes approches, c'est que moi ce que je pense c'est que l'argent public doit avoir une obsession, c'est de faire effet de ce qu'on appelle effet de levier, c'est-à-dire doit avoir une obsession, c'est de mobiliser l'argent privé. On ne peut pas se contenter de déverser de l'argent public et de se dire c'est de l'argent public qui va rénover les bâtiments. On sait qu'on a effectivement un besoin massif d'investissement. Sans parler des milliers de milliards, si on revient à la France avec des chiffres un peu plus faibles, le think tank I4C, donc de la Caisse des dépôts et de l'Agence française de développement, nous dit qu'il y a un manque d'investissement entre 10 et 30 milliards d'euros par an pour atteindre les objectifs qu'on s'est fixés dans le cadre de la transition. Pour faire ça...
Et c'est pas seulement l'argent public, mais il faut qu'il y ait cet effet de levier pour que ça attire les investissements privés.
Il faut effectivement que ça attire les investissements privés, que ça déclenche des projets. En fait, le problématique qu'on a, c'est pas qu'il y ait des projets qui sont pas financés. La problématique qu'on a, c'est qu'on a des besoins qui se transforment pas en projets finançables. voyez, c'est ça la différence. Et donc, il faut partir des besoins. On a besoin de rénover les bâtiments. On a besoin de mettre des bornes de recharge. Et il faut que tout ça se transforme en des projets concrets, finançables, avec de l'argent public et de l'argent privé.
Ce qui vous réunit en tout cas Philippe Zawati et Pierre Larouturou, c'est quand même qu'il y ait cette impulsion politique à la base, justement, pour générer ces investissements et en tout cas pour les orienter vers cette transition écologique. Ça, sans cette impulsion politique, Gisabelle Coupé-Souberon ne peut pas se dire, faire confiance simplement aux investisseurs privés en se disant ils vont comprendre par eux-mêmes peut-être la nécessité d'aller vers ces investissements.
Oui, bien sûr, on a besoin d'une impulsion politique et publique forte. Alors, bien entendu, si vous voulez, le secteur privé, le secteur bancaire et financier peut un peu spontanément s'orienter vers des investissements verts, d'accord, peut se verdir, mais on ne peut pas que compter sur cette orientation spontanée, d'autant que cette orientation parfois elle a surtout une visée un peu marketing. Il s'agit de redorer son blason, de regagner un peu la confiance à moindre coût. C'est ce que l'on appelle le greenwashing, d'accord. Donc il faut, si vous voulez, là avoir une orientation qui soit sincère et massive des flux financiers vers les investissements verts.
En même temps, Gisabelle Coupé-Souberon, vous disiez au début de l'émission qu'il y avait aussi des risques, c'est-à-dire des risques qui pouvaient être des risques quasi systémiques, hein, si j'ai bien compris, c'est-à-dire à ne pas financer la transition écologique et à rester peut-être sur des modèles de financement de l'économie, une économie fortement carbonée, parce que ce sont des choses qui peuvent être dévalorisées de manière un peu brutale. Donc, est-ce que du simple point de vue de l'intérêt, on va dire, des investisseurs financiers, il n'y a pas cette nécessité-là, quoi.
Oui, mais vous pouvez faire le parallèle avec les risques financiers. Les banques sont exposées, du fait de leur activité de crédit, à des risques de crédit, du fait de leurs activités de marché, à des risques de marché, du fait de l'informatisation de leur processus, à des risques opérationnels. Pour autant, est-ce qu'elles pourraient gérer par elle-même ce type de risque? Non, il faut des normes prudentielles pour que les banques les gèrent. Eh bien là, c'est la même chose, si vous voulez. Le risque climatique expose les banques à des risques importants. D'accord? Donc, de fait, elles vont devoir se soucier de ces risques. Mais on ne peut pas les laisser le faire seules. Il faut absolument mettre des normes en conséquence.
Est-ce qu'au moins elles en ont conscience, Philippe Zawati? J'étais assez frappé en lisant votre livre. Alors déjà par l'optimisme. En général, quand on lit des ouvrages sur le climat, en général, c'est quand même assez pessimiste. Là, c'est très, très optimiste. Et notamment sur le fait, vous dites, la COP21, ça a été vraiment un tournant majeur pour le monde de la finance qui a totalement pris conscience de la nécessité, justement, de verdir cette finance.
Bon, c'est de l'optimisme de l'action, hein, c'est. je vais répondre en même temps que de répondre à la question de la sincérité. Moi, je pense pas qu'on ait un problème de sincérité. La problématique aujourd'hui, c'est plutôt que le système financier, il finance l'économie telle qu'elle est aujourd'hui. La finance est effectivement un secteur extrêmement carboné aujourd'hui. Pourquoi c'est un secteur extrêmement carboné? Parce qu'il finance une économie extrêmement carbonée. Donc la question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on donne une responsabilité au secteur financier de lui-même faire bouger l'économie? Beaucoup de financiers vous diront non, mais finalement, moi j'attends que l'économie se verdisse, et puis quand l'économie sera verdie, vous verrez, je financerai une économie verte. Mon point de vue est différent, c'est de dire il faut au contraire que la finance soit proactive, et c'est ça la finance verte. La finance verte, c'est une finance proactive qui décide spontanément elle-même de financer des choses qui ne sont pas le business as usual et l'économie telle qu'elle est.
Est-ce qu'elle le fait aujourd'hui?
Mais cette finance verte, elle existe aujourd'hui, c'est ça que je voulais dire. Elle existe aujourd'hui. Il y a au sein du monde financier des équipes, des acteurs qui se mobilisent pour trouver des solutions pour financer le développement durable, pour financer les énergies renouvelables, pour faire ce qu'on appelle de la finance à impact, c'est-à-dire qui va répondre aux objectifs de développement durable de l'ONU, qui fait des innovations de produits comme les obligations vertes dont Gisabelle a parlé tout à l'heure. Donc cette finance, elle existe. On peut évidemment la critiquer parce qu'elle est trop petite, elle est parfois trop marginale. Quelquefois aussi, elle tombe dans le greenwashing, c'est évident. Mais c'est là-dessus qu'il faut qu'aujourd'hui, on s'appuie et qu'on développe.
Pierre Larouturou, est-ce qu'il n'y aurait pas aussi intérêt à faire peut-être davantage confiance justement à la finance au regard de ces expériences qu'évoquait Philippe Zawati?
Non mais évidemment, ça bouge. Mais simplement, moi j'ai un ami qui est responsable d'une salle de marché, il est complètement schizophrène. Tous les trois mois, savoir s'il garde son boulot et savoir comment sont évaluées ses primes, ça dépend de sa rentabilité par rapport au concurrent. Donc si le concurrent continue à spéculer, ce qu'a dit Philippe Darroiti est vrai, il y a une prise de conscience. Comme citoyens, les hommes et les femmes qui travaillent dans la finance savent que le monde va vers un drame. Mais leur boulot, tous les trois mois, est évalué en fonction de ce qu'ils font par rapport au concurrent. En 2008, tout le monde a dit qu'il fallait arrêter la spéculation. Et il y a une semaine, Christine Lagarde a dit on est à un niveau de spéculation jamais vu, on peut avoir une crise beaucoup plus grave que 2008. Donc il faut changer les règles du jeu, de même qu'on a un tout petit peu changé les règles du jeu financières après 2008, il faut changer les règles du jeu des sociétés d'assurance et des banques, comme ça ce que les exemples que donne Philippe Darroiti ne seront pas intéressants mais marginaux. Il faut que l'ensemble du système bancaire et assurance arrête de financer le charbon et le fuel et le gaz et aille vers ce qui est bon pour la planète. Et puis il y a des choses qui ne seront jamais rentables. Le secteur privé, il est très important, mais il va vers ce qui est rentable. Or, isoler tous les bâtiments publics et privés, mettre les transports en commun dans des zones où il n'y a pas grand monde, mais permettre à des gens qui travaillent loin de la ville de travailler à distance et de ne pas prendre leur voiture 5 fois par semaine, faire un plan Marshall pour l'Afrique, une des dimensions du projet qu'on défend avec Jean Jouzel et Anne Hessel et d'autres, c'est qu'il y a un vrai plan Marshall pour l'Afrique. L'Afrique va se disloquer s'il n'y a pas des aides massives pour son développement, que la plupart des Africains veulent vivre mieux, consommer plus d'énergie, mais il faut que ça passe par une énergie qui n'est pas carbonée. Ça demande des investissements massifs. On veut aussi un gros programme de recherche européen. L'Europe a mis des milliards pour faire Ariane et c'est un succès. L'Europe a mis des milliards pour faire Airbus et c'est un succès. Est-ce que l'Europe met des milliards pour inventer la voiture du futur ou l'ordinateur du futur? Donc oui, on peut faire confiance au secteur privé, mais en changeant les règles et en même temps, il faut une intervention politique, un traité européen. Angela Merkel a dit l'autre jour que l'Europe allait mourir si elle n'avait pas un nouveau projet. Nous, ce qu'on dit, c'est que l'Europe est née avec le charbon et l'acier et qu'elle pourrait renaître avec un traité climat, biodiversité et emploi.
Alors, on va revenir dans un instant sur ces règles pour voir si elles ont peut-être besoin d'être aussi un peu coercitives, en tout cas en partie coercitives, mais sur cette difficulté, Isabelle Couberan, à orienter la finance vers des investissements plus verts. Quand ce sont des investissements soit qui ne présentent pas forcément de rentabilité, auquel cas il faudrait plutôt des finances publiques, soit une rentabilité mais à moyen ou à long terme, alors qu'il y a nécessité d'obtenir de la rentabilité à court terme.
Ouais, c'est là le point clé. Et on évoquait tout à l'heure le discours de Marc Carney. Marc Carney, dans son discours, parlait de trajet.
Gouverneur de la Banque d'Angleterre.
Gouverneur de la Banque d'Angleterre et pas que. Hein, et, il est aussi président du Conseil de stabilité financière et puis le vice-président du Conseil européen du risque systémique. Et donc, il évoquait la tragédie des horizons. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'horizon de pensée et d'action du secteur financier, eh bien, c'est le court terme, voire même le très court terme, sur les marchés financiers, dans les salles de marché. L'horizon temporel, hein, c'est la seconde, c'est la milliseconde, d'accord? Si je grossis un tout petit peu le trait. En revanche, si vous voulez, l'horizon dont on a besoin pour mettre en place des infrastructures qui nous protègent du dérèglement climatique ou qui permettront d'agir sur ce problème, eh bien, c'est du moyen long terme. Alors, au fond, on peut se dire que aujourd'hui, l'écart entre ces deux horizons est en train de se resserrer. Pourquoi? Parce que ces problématiques environnementales, ces dégâts environnementaux que l'on envisageait, si vous voulez, dans des centaines d'années, aujourd'hui, ce que l'on nous dit, c'est que ça peut se produire dans des dizaines d'années. D'accord? Mais même 10 ans pour le secteur financier, eh bien, ça reste un horizon extraordinairement long.
Ça peut aller plus vite que ça. Vous voyez, par exemple, La compagnie d'électricité californienne qui a fait faillite il y a quelques jours, c'est probablement l'une des toutes premières faillites qui est due à l'impact physique du changement climatique. Ce sont les incendies en Californie qui ont entraîné la faillite boursière de cette compagnie d'électricité.
Donc ça risque peut servir d'électrochoc.
Ce risque climat, il commence, alors au-delà du risque de l'empreinte carbone au sens large, là on a vraiment de l'impact du risque physique, vous voyez. Et donc ça, c'est des choses qui vont forcément avoir un impact sur la façon dont les marchés financiers réagissent et interprètent en fait la situation. Mais cela étant dit, je voulais juste compléter sur un point.
Je vais vous faire réagir, Pierre Larotourou. Laissons juste terminer Philippe Zawati.
Juste en une phrase rapide sur un point qui est de dire certes, les marchés financiers sont hyper court-termistes. Et donc, dans les salles de marché, on résonne à la microseconde. Mais il y a aussi une autre partie de la finance qui, je veux dire, les fonds de pension aujourd'hui, les compagnies d'assurance ont de l'argent à placer à très long terme quand elles investissent dans des fonds d'infrastructure à un horizon de 15 ans, 20 ans. Donc, il y a aussi une finance de long terme. Il faut s'appuyer sur cette finance. finance de long terme pour résoudre les problèmes.
Ah, bien sûr, il y a des investisseurs de long terme dont le rôle est tout à fait majeur pour cette problématique.
Pierre Larossureau.
Oui, je crains hélas que l'autorégulation, je connais plein de personnes qui travaillent dans des banques et des assurances qui sont complètement schizophrènes, qui comme hommes et comme femmes, comme citoyens, vont dans les manifestations pour le climat, essayent de manger moins de viande, ne prennent plus l'avion pour leurs vacances. Donc je ne juge pas les personnes, mais leur comportement fait que s'ils ne jouent pas le jeu, alors que les concurrents des autres banques, des autres assurances continuent à jouer le jeu, eh bien ils sont licenciés ou leurs primes, ils divisent leur salaire par trois. Donc ou bien on arrive à changer les règles du jeu, et c'est pas choquant de se dire qu'on change les règles du jeu, qu'on prend un an ou deux ans pour réfléchir et que les banques et les assurances ont quelques années pour stopper les investissements marrons et aller vers ce qui est bon pour la planète. Et par ailleurs, comme il y a des choses vers lesquelles des domaines où le secteur privé n'ira pas parce que ça n'est pas rentable, c'est pas choquant d'avoir une banque et un budget. Quand on a fait l'éducation pour tous, ben on a fait un budget pour l'éducation, il y a un budget pour la santé, il y a un budget pour la défense, il y a un budget pour la recherche. Est-ce que c'est choquant de se dire qu'on peut inventer un budget climat au niveau européen pour avoir un plan Marshall et pour que chacun de nous reçoive une aide? Le besoin de budget, c'est que si chacun de nous, là on est quatre à parler, si chacun de nous doit isoler l'appartement où il habite avec sa famille, est-ce que chacun devra trouver 30 000 euros et payer cash l'intégralité des travaux, ou est-ce qu'on peut se dire qu'il y a une aide de l'Europe qui fait qu'une partie des travaux, que la moitié des travaux sera payée par la collectivité et que le reste on le paiera avec des prêts à taux zéro? Les gens du bâtiment, que ce soit le patronat du bâtiment ou les gens de la Fondation Abbé Pierre, disent que le secteur clé, la question fondamentale, c'est l'efficacité énergétique. Il faut qu'on arrive à diviser par deux notre consommation d'énergie, diviser par deux. Et ça suppose qu'on change les règles du jeu, qu'on dise par la loi, dans 20 ans, tous les bâtiments doivent être isolés. Sinon, le propriétaire dit, c'est pas à moi de payer parce que le locataire va faire des économies, donc c'est un cercle vicieux. Tous ceux qui ont réfléchi disent, il y a un moment, il faudra, par la loi, dire, dans 20 ans, tous les bâtiments publics et privés sont isolés. Et ça n'est acceptable, si on ne veut pas avoir des millions de gilets jaunes, ce n'est acceptable que s'il y a des compétences en face pour faire le boulot, et si on peut dire, la collectivité vous demande de faire un effort, mais elle paye la moitié. Et c'est aussi pour ça qu'on veut un budget climat qui pourra nous aider, chacun de nous dans sa vie personnelle et dans son entreprise, recevra une aide de l'Europe pour faire des travaux.
Voilà, ça c'est le projet de budget. S'agissant des règles, il y en a d'autres. Alors il y en a une qui est évoquée, en tout cas dans l'idée de changer certaines règles, dans votre livre, Philippe Zawati, qui vient de la Fédération bancaire française, et qui serait que les banques qui financent des projets verts ne seraient pas soumises aux mêmes règles prudentielles que les autres, c'est-à-dire que, si j'ai bien compris, elles seraient moins obligées d'avoir autant de fonds propres
que
les autres. C'est-à-dire qu'elles seraient privilégiées, parce que n'ayant pas besoin d'avoir autant de droits d'auto que autant de fonds propres.
Donc elles pourraient prêter plus vers des produits verts que des projets qui ne le sont pas.
Est-ce que ça fait partie des règles incitatives qui vous paraissent intéressantes?
D'abord, c'est quelque chose qui est demandé par par les banques. Donc déjà, on peut peut-être prendre ça comme une bonne nouvelle en se disant, ça veut dire que les banques disent en gros quoi? Elles disent, si je suis incité à le faire, j'ai l'opportunité de prêter plus à des projets verts.
On peut y voir une bonne nouvelle ou on peut être soupçonneux en se disant justement, ça vient des banques. Si on a l'esprit mal tourné, comme moi.
On peut avoir cet esprit-là. Je vais laisser Jezabel en parler.
Ah, parce que c'est elle qui a l'esprit mal tourné.
Voilà, c'est moi qui ai l'esprit mal tourné.
Mais non, mais voilà. Mais simplement, moi, je pense qu'il y a, plusieurs intérêts à ça. Il y a un des intérêts principaux qui est d'identifier clairement ce que sont les projets verts et ceux qui ne le sont pas. Aujourd'hui, on a quand même une vraie problématique, c'est que, et Jezabel l'a dit tout à l'heure, on ne sait pas ce que ça veut dire investir dans un produit vert. Il n'y a pas ce qu'on appelle une taxonomie, une définition des produits verts. D'une certaine façon, mettre en place des régulations de ce type, c'est-à-dire incitatives, pourrait permettre de bien définir ce qui est vert et ce qui ne l'est pas, et donc du coup de réorienter plus massivement. Après, est-ce que c'est spécifiquement là le bon outil? Là, je vais laisser Jezabel répondre, parce que je pense qu'on est à peu près d'accord sur le fond.
Jezabel Coupé-Soubéran.
Oui, moi je suis pas du tout favorable en fait à ce green supporting factor, à cette idée d'alléger la réglementation prudentielle des banques en échange d'investissements verts. Pourquoi ? Parce que la transition écologique, c'est un enjeu majeur. La stabilité financière, c'est un autre enjeu majeur. C'est-à-dire qu'il faut que le secteur bancaire et financier fonctionne bien, fonctionne de manière stable, apporte sa contribution à l'économie réelle et ne soit pas secoué tous les 10 ans par des crises.
Donc si ça suppose d'avoir suffisamment de fonds propres pour être en mesure de résister à l'instabilité.
Exactement. Et donc mettre en balance, en quelque sorte, la stabilité financière et la transition écologique, ça me semble une orientation situation dangereuse.
Mais cela étant dit, si on considère que le climat est un risque majeur, il faut bien que ce risque-là soit intégré dans la régulation. Sinon, on l'oublie, ce risque.
Il faut verdir la régulation. C'est un point. Il faut verdir la politique monétaire, il faut verdir les banques, il faut verdir donc la régulation, mais ne pas le faire en mettant en balance deux enjeux majeurs qui sont la transition écologique et la stabilité financière. Je pense qu'il faut introduire des normes prudentielles, environnementales, obliger les banques à détenir une certaine part d'actifs verts à leur bilan. Alors ça nous renvoie à cette fameuse taxonomie, c'est-à-dire qu'il va falloir vraiment, si vous voulez, qu'on arrive à dessiner cette palette d'actifs verts aux actifs bruns, qu'on sache faire la distinction entre les deux. Donc verdir la régulation prudentielle, oui, bien sûr, mais sans mettre en balance la stabilité financière et la transition écologique.
Et cette taxonomie, il faut aussi que les épargnants, en tout cas ceux qui placent leur argent dans les banques, puissent aussi y avoir accès. Il se trouve que le 7 mars prochain, il y a le vote d'une proposition de loi sur la transparence, sur l'utilisation de l'épargne populaire en matière énergétique. Et alors, j'ai découvert à la faveur justement de cette loi que seule une faible part de l'argent placé sur le livret de développement durable et solidaire, livret de développement durable et solidaire, était affecté à la transition écologique. Comment c'est possible, ça, Philippe Zawati ?
Encore une fois, c'est le fléchage qui est complexe.
Parce que quand on prend un tel livret, c'est qu'on imagine que ça va servir à la transition écologique.
À partir du moment où vous n'arrivez pas à définir déjà ce qui est vert et ce qui ne l'est pas, c'est assez compliqué de demander aux banques de dire « démontrez-moi que vous avez bien investi sur le vert ». La problématique, elle est beaucoup plus globale aujourd'hui. L'épargne des ménages n'est pas orientée vers la transition écologique. Pas du tout. On a des produits labellisés en France. On est un des premiers pays à avoir créé des labels de produits financiers orientés vers la transition écologique. Ça existe depuis maintenant quelques années. Ça ne représente que quelques milliards d'euros. Les produits dits d'investissement responsable ne représentent que 2 à 3 % des actifs qui sont placés dans les contrats d'assurance vie. Donc on a besoin de faire un choc massif aujourd'hui pour verdir l'épargne des ménages. Et pour ça, il faut donner beaucoup plus d'informations, beaucoup plus de transparence. Vous parlez d'un projet de loi, il y a aussi à l'intérieur de la loi Pacte une disposition qui a été votée en première lecture et qu'on essaye de pousser pour qu'elle soit encore plus forte, qui consiste à obliger toutes les compagnies d'assurance à proposer au moins un produit vert dans leur contrat d'assurance vie, ce qui n'est même pas le cas aujourd'hui.
J'entendais Pierre Larouturou qui souhaitait réagir.
Oui, la question de la taxonomie est évidemment importante si on veut après ça pousser les banques et les assurances à accélérer. Mais il y a quand même un vrai énorme problème de volonté politique. Quand Nicolas Hulot démissionne, il dit « j'avais de bonnes relations humainement avec le président et le premier ministre, mais je démissionne parce qu'il n'y a aucune volonté politique ». Quand on dit que l'argent qui est sur les livrets développement durable n'est pas bien employé, on sait quand même ce qu'il faudrait faire. Il faudrait isoler tous les bâtiments publics et privés en commençant par les plus précaires. L'autre jour, j'étais avec un gilet jaune sur une chaîne de télévision. Il expliquait que lui et sa famille vivaient dans un HLM et que tous les hivers, ils avaient froid parce que les fenêtres laissaient passer un vent très froid et que donc pour ces enfants étaient malades et qu'ils dépensaient un fric fou dans le chauffage. Donc il y a des moments où il faut être subtil et la complexité, il faut s'y attaquer. Je prétends pas qu'il y a aucun problème de taxonomie, mais est-ce qu'on isole tous les bâtiments en commençant par les plus précaires? Ça donnerait du boulot à 300 000 personnes et c'est faisable et c'est rentable et c'est bon pour la santé des gens qui y habitent, c'est bon pour la facture énergétique, c'est bon pour créer des emplois, c'est bon pour leur pouvoir d'achat. Et juste, c'est qu'il y a une vision technique, que les gens qui gèrent le budget au ministère des Finances se disent que c'est pas immédiatement rentable, qu'ils voient pas l'intérêt pour leur ligne. Donc il y a un énorme problème de volonté politique en France comme dans d'autres pays.
Et on verra d'ailleurs Pierre Larouturou à la faveur du prochain Conseil de l'Europe si ces propositions de pacte finance-climat sont retenues, c'est en tout cas l'ambition de ces signataires. Une toute dernière question, Gisabelle Coupé-Soubéran. Est-ce que le système financier international tel qu'il existe aujourd'hui, 10 ans après la crise, est capable justement de s'adapter à cette nécessité ou bien est-ce qu'il faudrait passer d'abord par une réforme du système?
Non, je crois que c'est une véritable opportunité en fait pour le système financier, pour le secteur bancaire et financier qui depuis la crise précisément n'a pas suffisamment bien réorienté son activité vers les besoins de l'économie réelle. Donc financer la transition écologique, je pense que c'est une opportunité à la fois pour la croissance, pour la finance, pour l'Europe. Mettre la finance au service du climat au fond, c'est remettre la finance au service de l'économie et des citoyens. Il y a une belle opportunité qui est là. En revanche, ne comptons pas, Pierre l'a dit, sur l'autorégulation pour le faire. Il faut des normes pour le faire. Donc il faut une action forte des pouvoirs publics, du législateur.
Merci.
Et donc des citoyens, bien sûr.
Pacte climat.eu.
Voilà, le dernier mot sera revenu à Pierre Larouturou. Ça ne m'étonne pas. Merci beaucoup, en tout cas à vous, ainsi qu'à Philippe Zawati et à Jezabel Coupé-Soubéran d'avoir participé à cette discussion. Les références bibliographiques des uns et des autres, c'est sur notre site franceculture.fr, la page du Grain à Moudre. Merci à toute l'équipe du Grain, Virginie Leduo, Antoine Tricot, Fanny Richer, Antoine Dulster et Cyril Marchand, une émission réalisée par Pierre Legras, avec à la prise de son Jean Frédéric. Et puis merci également à nos camarades de France Bleu à Rouen, qui assurait le duplex ce soir avec pour Pierre Larouturou.